人的烟味，你们隔壁是过树罐，店里面的妈妈桑擦的有三段，叫群找武士老板烈铁沙场耍要加强，印尼的空腹最擅长，后金铜罩铁虎山，他们的自我习惯从小就有目染，什么当真空干嘛我都耍的有模有样，什么冰淇淋喜欢双节棍柔中带钢，想要去河南嵩山学少林跟武当，
怎么该
呼吸吐纳心自在，
怎么该
七尺难免手心开，
怎么该
日行千里心下来，飞檐走壁莫奇怪，去去就来。嘿，干嘛不向前一起左勾拳右勾拳，一去惹毛我的人有危险。一再抽烟，一根我不抽的烟，一放好多年，他一直在身边。
怎么该怎么该，
我打开任督二脉。
怎么该怎么该，
东洋兵分两战败。
怎么该怎么该，
一被我一脚踢开。八十用双截棍，呵呵哈嘿，八十用双截棍，呵呵哈嘿，新五十两千斤。习惯从小就耳濡目染，什么刀枪棍棒我都耍得有模有样。
什么兵器最喜欢双截棍，龙掌带钢，想要去河南嵩山学少林跟武当。
快使用双截棍，呵呵哈嘿，快使用双截棍，呵呵哈嘿，新武士两千斤，
狠者无敌，
是谁在练太极，风生水起。快使用双截棍。
Profession ou vocation, moi je crois que c'est les deux à la fois. À l'origine, pour moi, c'est d'abord une vocation. Je me souviens, j'étais en troisième quand ça m'a pris. J'ai eu envie de parcourir le monde, de vivre le monde au rythme de l'actualité. Je me souviens que bon, j'étais étudiant, enfin écolier au lycée à Dijon. Et Dijon, bon, bah, c'est une belle ville, mais quand on a une quinzaine d'années, on a envie d'en partir et de parcourir le monde, de voir d'autres horizons. Et donc, je me suis toujours destiné à cette profession. En fait, à l'origine, je voulais faire texte et photo de reportage et partir sur la guerre du Vietnam. Et puis, finalement, j'ai pris une autre direction parce que je suis parti en Arabie Saoudite pour m'occuper des émissions en langue française. Et donc, ça m'a donné le goût du Moyen-Orient. C'est comme ça que je me suis attaché au Proche-Orient.
Et après, vous êtes parti beaucoup plus loin à l'Est. Alors, vous avez été basé à Pékin de 2000 à 2006. Vous avez été correspondant de France 2 en Asie. Comment la Chine est arrivée dans votre vie ?
Mais la Chine, justement, bon, comme je dis tout à l'heure, c'était mon rêve, c'était de couvrir la guerre du Vietnam. Et donc, c'était quand même un rêve d'Asie. Et j'ai attendu toute cette période-là, de l'an 2000, pour partir en Chine et donc être aussi correspondant en Asie. Et la Chine, moi, ça m'a toujours fasciné. Moi, quand j'étais étudiant, ici à Lille, par exemple, c'était en mai 68. Donc, on était aussi étonnés par les slogans qui sortaient, les slogans pro-maoïstes. On ne savait pas du tout ce que ça signifiait dans la réalité. On ignorait complètement ce qui se passait en Chine, qu'il y avait une famine qui était très grave. Mais bon, on avait quand même une certaine fascination pour la Chine, pour la façon dont on gérait un pays comme ça de centaines de millions d'habitants, sur la réforme agraire aussi. Voilà, on disait Mao Tse-tung a réussi la réforme agraire alors qu'on ne savait absolument pas ce qui se passait là-bas. Et donc la Chine m'a toujours fasciné. En plus, l'Asie aussi, parce que je trouve qu'en Asie, les gens ont un rapport différent à l'image que celui que nous avons, nous. C'est-à-dire pour eux, l'image, c'est quelque chose de bien, ils sont fiers d'être photographiés, alors qu'en France, en Europe, il y a beaucoup de méfiance vis-à-vis de l'image et de la photographie. Donc c'est aussi pour ça que j'ai aimé la Chine et l'Asie.
Est-ce que vous avez été tenté à un moment par le maoïsme, comme beaucoup de jeunes de votre génération ?
Tant et non, mais disons étonné, surpris, vraiment intéressé. En gros, comment peut-on être maoïste, quoi ? Et c'est pour ça que, quand en mai 68, bah, ici, là, on avait fermé l'école de journalisme et on était tous descendus à Paris pour voir ce qui s'y passait. Hein. C'est normal, quand on est jeune journaliste, on a envie de couvrir l'événement. Et donc, j'assistais souvent au débat à la Sorbonne où on parlait justement du maoïsme et j'entendais des gens, des étudiants, des professeurs qui expliquaient ce que c'était que le maoïsme. Et donc, j'étais en fait plus fasciné, étonné que vraiment séduit. En réalité.
Quel a été votre sentiment quand vous avez posé pour la première fois le pied sur le sol chinois ?
Alors la première fois que j'ai posé le pied sur le sol chinois, bah, c'était en 2000, justement pour y rester 6 ans. Enfin, je ne pensais pas que j'allais rester 6 ans. Mais moi, je me dis, la Chine, ce n'est pas un pays où on peut aller 15 jours. Hein. Donc la Chine, il faut au moins rester 2 ans. Donc je m'étais donné 2 ans, je suis resté 6 ans. Et bah, moi, j'ai été surpris par des tas de choses. Parce que, par exemple, vous voyez, je ne savais pas qu'en Chine, il y avait des supermarchés, qui avaient Carrefour, notamment la marque française. Donc c'était des choses aussi simples que ça qui attiraient mon attention. Puis quand je suis arrivé en Chine, bon, pour moi, la Chine, ce qui me fascinait, ce qui m'étonnait, c'était les minorités. Alors donc, je rêvais toujours d'aller dans le sud, voir les minorités. Le Tibet, bien sûr, puisque j'aime beaucoup la haute montagne aussi. Donc j'ai pu aller plusieurs fois au Tibet. Et c'était ça au début. Puis après, ça s'est transformé. Et moi, ce qui m'a intéressé, c'est la façon dont la Chine se transformait. C'est pour ça qu'aujourd'hui, quand on me demande quelle est ma ville préférée, par exemple, bah, je dis c'est Chongqing, parce que c'est là qu'il y a eu le plus de transformations, où on a cassé des quartiers entiers, où on a déplacé les populations. Et pour moi, c'est vraiment les transformations de la Chine telles qu'on peut les observer que je vois à Chongqing.
Alors en 2006, être étranger journaliste en Chine vous oblige à vivre dans une résidence diplomatique.
Non, j'étais pas obligé de vivre en résidence diplomatique. Je l'ai fait parce que c'était pour moi le plus pratique. J'avais une fille de 12 ans, donc c'était pour sa sécurité, sa tranquillité et tout ça, c'était le plus pratique. Au début, j'avais cherché de vivre dans un Sihaiyuan, mais quand j'ai vu qu'il fallait chauffer tout ça, qu'il fallait traverser la cour pour aller à la salle de bain le matin, donc finalement, j'ai préféré le confort d'une résidence bien chauffée. Et donc, j'ai résidé là. Bon, personnellement, ça n'a pas vraiment représenté d'inconvénient. Le seul problème, c'était que quand des Chinois venaient me rendre visite, alors il fallait qu'ils montrent patte blanche, qu'ils déclarent qu'ils étaient, mais j'allais les chercher à la porte et ça posait pas trop de problèmes.
Comment travaille au jour le jour un journaliste étranger en Chine ?
Alors c'est très différent, ça a beaucoup évolué. Moi, quand j'étais en Chine, par exemple, il fallait l'autorisation du Weiban, du représentant local du ministère des Affaires étrangères, pour aller faire un reportage en province. Et donc, il fallait dire qu'est-ce qu'on voulait faire, qui on voulait rencontrer. Et alors, eux, évidemment, ils cherchaient à vous orienter vers des sujets, des reportages qui les intéressaient, disons, qui servaient un peu leur cause, la cause du parti. Après, c'est à vous, en tant que journaliste, de réagir et dire, ben, t'es, non, ben, je veux bien aller voir ça, parce que moi, je refusais jamais d'aller voir ce qu'ils me montraient, mais je voudrais aussi voir ça, je voudrais aussi rencontrer telle personne, n'est-ce pas ? Et donc, on arrivait comme ça à construire nos reportages. Puis après, à la veille des Jeux Olympiques, ils ont dit, ben, maintenant, c'est plus la peine d'avoir l'autorisation pour aller faire des reportages en province. Et finalement, c'était un peu un piège parce que les gens étaient tellement habitués à ce qu'on ait l'autorisation du gouvernement que quand on arrivait, par exemple, dans une entreprise et qu'on avait pris contact avec le patron, il nous disait « Est-ce que vous avez l'autorisation du Weiban ?» Et on disait « Mais non, il n'y a plus besoin de l'autorisation. Oh, mais moi, je ne peux pas vous laisser faire un reportage là parce que vous comprenez et tout ça. » Donc, il cherchait vraiment un parapluie, n'est-ce pas ? Parce qu'il avait été habitué à ça. Et donc, il cherchait aussi à se couvrir si jamais le reportage était négatif pour son entreprise ou pour le pays. Il voulait avoir la couverture des responsables des affaires étrangères. Et donc, ça n'a pas forcément plus facilité le travail que de ne pas être obligé d'obtenir une permission pour faire ses reportages en province.
Alors, si je vous pose la même question pour le journaliste chinois, est-ce que vous avez l'impression qu'il fait le même métier que vous ?
Non, alors l'éducation du journaliste chinois est complètement différente. Hein. Le journaliste chinois, on lui apprend qu'il faut dire du bien de ce qu'on voit. Bon, évidemment, il est coincé dans un circuit officiel. Hein. Le journaliste chinois, quand il arrive le matin à sa rédaction, il y a une liste des sujets qu'il ne doit pas traiter, hein, qu'il n'est pas autorisé à traiter. Bon, heureusement, c'est pas notre cas. Et donc, il est un peu formaté, façonné comme ça. Et c'est assez rare de voir un journaliste chinois réagir en disant « Mais oui, il faut absolument faire une enquête là-dessus ». Il y en a quand même quelques-uns, hein, heureusement. Bon, je prends aussi comme modèle les journalistes de Hong Kong, hein, qui, bon, évidemment, ce n'est pas la République populaire, mais enfin, à Hong Kong, il y a quand même des très bons journalistes qui ont fait des bonnes enquêtes. Donc, on peut espérer que dans l'avenir, il y aura des journalistes sur le continent qui arriveront à faire ce genre d'enquête-là. Mais en moyenne, c'est des journalistes très, très formatés. Et puis, bon, je ne sais pas, il y a aussi une certaine corruption quand même chez les journalistes. Moi, ce qui me frappait, par exemple, c'est qu'un journaliste qui va faire un reportage dans une entreprise, eh ben, l'entreprise lui donne de l'argent, le paye. Alors moi, je dis, mais attendez, ça, c'est de la corruption et tout ça. Et plusieurs fois, ça m'est arrivé où on va faire un reportage dans une entreprise et le patron nous dit combien vous voulez. Alors évidemment, j'ai dit, non, ça ne fonctionne pas comme ça. Les journalistes français, ça ne fonctionne pas comme ça. Et même, j'ai fait des reportages dans des firmes automobiles françaises établies en Chine, où la firme automobile donnait de l'argent, hein, une enveloppe rouge, aux journalistes chinois. Et moi, je refusais ça, et je refusais aussi qu'on paye mon hôtel. Et ça faisait rigoler les journalistes chinois, et même les représentants de la dite entreprise.
Comme quoi, nous ne travaillons pas de la même façon. Alors, en Chine, puisque le permis international n'est pas reconnu, vous avez passé votre permis de conduire pour 150 euros. Mais alors, que fallait-il répondre à la question « Que faut-il faire des tripes d'un accidenté de la route qui gît sur le macadam ?» J'ai adoré cette question, donc j'attends la réponse.
Alors, en fait, ça, c'est la question qui est dans une liste qui est fournie dans un livre où on vous prépare justement au permis de conduire. Donc la réponse est toute faite et la réponse était qu'il faut préserver les tripes et les mettre dans un bocal pour que le patient ait des chances de survivre aussi en attendant l'arrivée des secours. Quoi.
C'est toujours utile à savoir.
C'est toujours utile à savoir, oui. Enfin, moi, ce qui m'a amusé le plus, c'était qu'en fait, on passe son permis de conduire non pas avec un examinateur, mais avec un policier, carrément. Et le policier était plutôt sympa quand j'ai passé mon permis. Il rigolait de voir un étranger comme ça circuler. Mais bon, aussi, on passe le permis, on passe pas le permis dans la circulation, on passe le permis sur un circuit, donc il y a quand même beaucoup moins de risques d'accident et de manquer son permis. Quoi.
Oui, mais alors, une fois qu'on a son permis en Chine, on prend la route et on roule plutôt à gauche. Enfin, il est conseillé de rouler plutôt à gauche. Pourquoi ?
Alors, ils vous disent de plutôt rouler à gauche parce qu'à droite, il y a des vélos, il y a des animaux, il y a des paysans qui traînent leurs charrettes et tout ça. Donc, rouler à droite, c'est dangereux. Tandis que rouler à gauche, c'est la file des voitures qui roule à vitesse, disons, normale. Donc, vous êtes moins inquiété en roulant sur la gauche qu'en roulant à droite. Quoi.
Bon, j'espère que vous avez perdu cette habitude en rentrant. Alors, puisque vous avez votre permis, vous achetez une voiture et comme tout le monde, vous la payez en liquide.
Oui, alors bon, je crois qu'aujourd'hui, on peut payer sa voiture avec un virement ou avec un chèque. Mais à l'époque, il fallait payer en liquide et donc avec des billets de 100 yuan. Hein, 100 yuan, ça fait des billets de 10 euros, mais qui sont deux fois plus gros que des billets de 10 euros. Et donc, je ne sais plus combien j'avais payé la voiture. Mais enfin, moi, je ne voulais pas me trimballer avec une mallette dans laquelle il y avait plein d'argent. Et donc, j'avais pris un daï, là, le manteau chinois qui est un peu un manteau militaire. Et donc, j'avais bourré tout cet argent là-dedans. Quoi. Et donc, c'était quand même impressionnant de se déplacer comme ça avec une petite fortune pour aller acheter une voiture.
Future. 是半截，回眸一笑你婉约。恨了没你要偷情，但谁让你蹙着眉，而生归途流言是为人言难飞，转身一瞥你惊泪，举一把月手揽回忆怎么睡，又怎么会心事蜜蜂绣花写真真眼泪，若花原点你会怨着谁，
继续等。